9. Gradouble faisait plus que protester, il braillait comme un putois. « Ce mec est complètement givré, il est entré ici, il savait même pas ce qu'il voulait, puis il l'a trouvé dans la Bible du tireur. Et là, c'était le nombre de cartouches dans une boîte qu'il ne connaissait pas, ni le prix. Et ce qu'il raconte sur son port d'armes que j'aurais voulu examiner de plus près, c'est le pire tissu de conneries que j'ai jamais entendu parce qu'il n'en avait pas de permis. Il a... » Holden s'arrêta net. « Tenez, le voilà. Il a du culot, ce fumier. Attention, mec !» « Je l'ai repéré, ta gueule. La prochaine fois que je la croise, tu vas le regretter. Garanti. Tu vas sacrément le regretter. »
« Vous niez toujours avoir le portefeuille de cet homme ?» demanda O'Meara.
« Sûr que je le nie. Vous savez très bien que je ne l'ai pas. »
« Verriez-vous un inconvénient à ce qu'on jette un coup d'œil derrière votre vitrine ?» contre-attaqua Delevan. « Juste pour ne pas rester sur un doute. »
Bordel de bon Dieu, de merde, de pute vierge, elle est en verre, cette vitrine. Vous voyez des masses de portefeuilles à travers?
Pas là, mais là, peut-être, fit Delevan dans un pur feulement alors qu'il s'approchait de la caisse enregistreuse. À cet endroit, une bande d'acier chromé courait du haut en bas des étagères sur une largeur d'environ 50 cm. Delevan se retourna vers l'homme au costard bleu qui hocha la tête.
Vous allez me faire le plaisir de sortir d'ici, les gars. Et sur le champ, dit Gradouble, dont le visage avait perdu ses couleurs. Si vous revenez avec un mandat de perquisition, on en reparlera. Mais pour l'instant, je vous ai assez vu. On est encore dans un pays libre, que je sache. Hé là ! Qu'est-ce que vous foutez, vous ? Écartez-vous de là !
O'Meara s'était penché par-dessus le comptoir.
Vous n'avez pas le droit ! Hurla-t-il. Vous êtes dans l'illégalité la plus totale. La Constitution, mon avocat, retournez tout de suite à côté de votre copain.
Je voulais seulement avoir une chance de jeter un coup d'œil sur votre marchandise, le coupa tranquillement O'Meara, vu que la vitrine est franchement dégueulasse. C'est pour ça que je me suis penché par-dessus. Pas vrai, Karl?
Vrai de vrai, collègue, approuva solennellement Delevan. Et regarde ce que j'ai trouvé.
Roland perçut un clic, et soudain le pistolero en uniforme bleu eut au poing un revolver d'une grosseur exceptionnelle. Gradouble, finalement convaincu d'être le seul dans cette pièce à pouvoir donner des faits une version qui s'écarta du conte de fées débité quelques minutes auparavant par le flic qui, par-dessus le marché, venait de mettre la main sur son magnum, sombra dans une humeur morose.
« J'ai un permis, » dit-il. « De port d'armes ?» demanda Delevan.
« Ouais. »«
De port dissimulé ?»«
Ouais. »«
Enregistré, ce revolver ?» demanda O'Meara, prenant le relais.
« Oui ou non ?»«
J'ai peut-être oublié. »« Peut-être qu'il a été volé et que ça aussi, tu l'as oublié. »«
Faites chier ! J'appelle tout de suite mon avocat. » Gradouble se tourna vers le téléphone. Delevan le retint.
Et puis, il y a aussi la question de savoir si tu as ou non un papier qui t'autorise à dissimuler une arme de ce calibre dans un étrier à mécanisme.
Toujours ce même feulement doux.
Question intéressante, d'ailleurs, car à ma connaissance, la ville de New York ne délivre pas de permis de ce type.
Les deux flics avaient les yeux sur Holden, et Holden leur rendait un regard noir. Partant, nul ne vit Roland retourner la pancarte suspendue derrière la porte vitrée. Au lieu d'annoncer « ouvert », elle annonça « fermé ».
« On y verrait peut-être plus clair si on retrouvait d'abord le portefeuille de monsieur, » dit O'Meara.
Satan même n'aurait pas menti avec une telle conviction. Après tout, peut-être qu'il l'a seulement égaré.
« Je vous l'ai déjà dit !» Je l'ai même jamais vu, son portefeuille. Ce type est complètement jeté.
Roland se pencha. Il est là-dessous. Je le vois. Il a son pied dessus. Mensonge, mais Delevan, qui avait toujours la main sur l'épaule de Gradouble, le tira brusquement en arrière, rendant désormais impossible de dire si Holden avait eu ou non le pied sur quelque chose. C'était maintenant ou jamais. Roland se glissa sans bruit derrière les deux pistoleros accroupis pour regarder sous le comptoir. Comme ils étaient côte à côte, leurs têtes se touchaient presque. O'Meara avait toujours à la main l'arme du vendeur.
« Bon Dieu, il est là !» s'écria Delevan. « Je le vois !»
Roland décocha un bref regard à celui qu'ils avaient appelé gras double, s'assurant que le type ne mijotait pas quelque chose. Mais Holden était adossé à la cloison, pesant dessus comme s'il cherchait à s'y fondre, les mains le long du corps, les yeux en boule de loto. Il avait l'air d'un mec qui se demande pourquoi son horoscope ne l'a pas prévenu des tuiles qui allaient s'abattre aujourd'hui sur lui. De ce côté, pas de problème.
« Ouais !» fit joyeusement O'Meara. « Ça y est, moi aussi, je le... »
Roland venait de faire son dernier pas. Il avait plaqué une main sur la joue droite de Delevan, l'autre sur la joue gauche d'O'Meara, et tout d'un coup, cette journée dont gras double aurait juré qu'elle avait atteint le fond de l'horreur, s'était révélée garder le meilleur pour la fin. Le cinglé en costard bleu avait réuni les deux têtes avec une telle violence qu'elles avaient rendu un son de roche enveloppée dans du feutre. Les flics s'effondrèrent en tas, et l'homme aux lunettes cerclées d'or se redressa. Il pointait le Magnum 357 sur gras double. Le méchant trou noir de l'arme était assez gros pour qu'on puisse attendre à en voir sortir une fusée lunaire. On ne va pas se créer d'autres problèmes, n'est-ce pas ? Demanda l'homme de sa voix sans timbre.
Non, monsieur, fit aussitôt gras double. Pas l'ombre.
Tu ne bouges pas. Si tes fesses se décollent de ce mur, c'est de la vie telle que tu l'as toujours connue que tu vas décoller. Compris ?
Oui, monsieur, compris.
Bien. Roland sépara les deux flics. Ils étaient toujours vivants. Bonne chose. Si lents, si peu vigilants fussent-ils, il ne s'agissait pas moins de pistoleros, d'hommes qui s'étaient efforcés d'aider un étranger qui avait des ennuis. Rien n'exigeait qu'il tuât ses pères. Mais ne l'avait-il pas fait précédemment ? Si. L'un de ses frères jurés... Alain, n'était-il pas mort sous ses balles et sous celles de Cuthbert ? Sans que Roland relâchât sa surveillance sur le vendeur, la pointe du mocassin Gucci de Jack Mort explora les dessous du comptoir et finit par rencontrer le portefeuille. Un coup sec de cette même pointe l'expédia tourbillonnant à quelques pas de gras double qui sursauta et poussa un cri comme une idiote voyant déboucher une souris de sous un placard. Momentanément, ses fesses perdirent contact avec la cloison, mais le pistolero s'abstint de tenir sa promesse. Loin de lui toute intention de coller une balle dans le corps de cet homme. S'il devait se servir de ce revolver pour prévenir quelque absurde tentative, ce serait comme d'une arme de jet, la taille et le poids de cette masse de métal promettant d'assommer sa cible avec la même efficacité qu'une seule détonation ameutant tout le voisinage.
« Ramasse !» dit le pistolero. « Sans geste brusque !»
Gras double se pencha, et alors que sa main se refermait sur le portefeuille, il péta et poussa un autre petit cri. Vaguement amusé, Roland comprit que le type avait confondu l'explosion de ses entrailles avec celle d'un coup de feu, et crut sa dernière heure arrivée. Holden se redressa. Il était tout rouge, avait le devant du pantalon tout trempé.
« Bon, pose cette bourse, je veux dire ce portefeuille, sur le comptoir. »
Gras double s'exécuta. « Maintenant, occupons-nous de ces cartouches, les Winchester 45, et pas un instant, je ne veux perdre de vue tes mains. »
Il va falloir que j'en mette une dans ma poche pour prendre les clés.
Roland l'y autorisa d'un signe. Alors que le vendeur déverrouillait, puis faisait glisser le panneau fermant le casier où étaient empilées les boîtes de munitions, Roland réfléchit. Tu m'en sors quatre boîtes, finit-il par dire, incapable de s'imaginer ayant besoin d'autant de cartouches, mais ne pouvant résister à la tentation de les avoir. Holden posa les boîtes sur le comptoir. Le pistolero en ouvrit une, n'y croyant toujours pas, s'attendant à trouver n'importe quoi sauf des balles. Mais c'en était, lisse, brillante, sans trace de percussion, sans rayure, des douilles qui n'avaient jamais servi, n'avaient jamais été rechargées. Il en prit une, la tint un instant dans la lumière, puis la remit en place. « Maintenant, tu me donnes une paire de ces fers. »«
Des fers ?»
Roland consulta la morte cyclopédie. « Des menottes. »« Monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez au juste, mais la caisse fait ce que je te dis. »
« Oh, Seigneur, ça n'aura donc jamais de fin !»
gémit en pensée Gradouble. Il ouvrit une autre section du comptoir et en sortit une paire de menottes. « La clé !» fit Roland. L'indispensable accessoire rejoignit sur le comptoir les bracelets d'acier, rendant un son cristallin en se posant sur le verre. L'un des flics sans connaissance émit un court ronflement et Johnny glapit en contrepoint.
« Tourne-toi !» lui ordonna le pistolero.
« Vous n'allez pas me tirer dessus, hein? Dites-moi que vous n'allez pas faire ça !»«
Non !» dit Roland. « Du moment que tu te retournes, sinon je le fais !»
Gradouble obéit et commença de pleurnicher. Bien sûr, le type venait de dire qu'il n'allait pas tirer, mais l'odeur de mort s'était faite ici trop forte pour qu'il pût continuer de l'attribuer à son imagination. Ses sanglots cédèrent le pas à des gémissements étranglés.
« Je vous supplie, monsieur, épargnez-moi. Faites-le pour l'amour de ma mère. Elle est vieille, elle est aveugle, elle est... »
Affligée d'un foie jaune en guise de fils,
acheva Roland glacial. « Rapproche tes poignets. » Piaillant, le tissu mouillé du pantalon se prenant dans son entrejambe, Johnny s'exécuta. En un rien de temps, les menottes furent en place. Comment s'y était pris le type pour faire aussi vite le tour du comptoir et les lui passer? Mystère. Il n'avait, à vrai dire, aucune envie de le savoir.
« Tu restes là, et tu regardes le mur jusqu'à ce que je t'autorise à te retourner. Si tu le fais avant, tu es un homme mort. »
Une lueur d'espoir naquit dans l'esprit du malheureux vendeur. Le type n'avait peut-être pas l'intention de le tuer, après tout. Peut-être n'était-il pas fou, simplement dérangé.
« Je me retournerai pas, promis, juré, par le bon Dieu, par tous ces saints, par tous ces anges, par tous ces arts, et moi, par ce que tu veux, je te jure que si tu la fermes pas, je te colle un pruneau dans la nuque. »
Johnny préféra la fermer. Il eut l'impression de rester planté devant ce mur pendant une éternité. Il ne s'écoula en réalité qu'une vingtaine de secondes. Roland s'agenouilla, posa l'arme du vendeur à terre, releva un instant les yeux pour s'assurer que celui-ci était sage, puis se déplaça jusqu'aux deux pistoleros qu'il retourna sur le dos. L'un comme l'autre était hors de combat. Mais sans que leur état, jugea-t-il, pût inspirer quelque inquiétude. La respiration était régulière. Celui qui s'appelait Delvan avait un peu de sang qui lui coulait de l'oreille, mais rien de plus. Roland jeta encore un coup d'œil sur l'homme collé au mur, puis, après avoir ôté la veste de Jack Mort, il débarrassa les deux pistoleros de leur ceinturon pour s'en revêtir. Si ridicules fussent-elles, c'étaient des armes, et en sentir de nouveau le poids sur ses hanches était bon. Sacrément bon. Meilleur qu'il ne l'aurait cru. Deux revolvers, donc, un pour Eddie et un pour la dame, quand il serait possible, en admettant que ce vint à l'être, de lui confier une arme. Il renfila la veste de morte et en lesta chaque poche avec deux boîtes de munitions, opération qui transforma cette pièce de costume, antérieurement impeccable, en sac informe. Ensuite, il ramassa le magnum du vendeur, en extirpa les cartouches qu'il rangea dans sa poche de pantalon, avant de balancer l'arme à l'autre bout du magasin. Quand elle atterrit sur le sol, Gradouble sursauta, glapit une fois de plus et gratifia son pantalon d'une petite giclée supplémentaire de liquide à 37 degrés Celsius. Puis, Roland se releva et dit à Holden qu'il pouvait se retourner. 10. Quand, sans risquer sa vie, Gradouble put de nouveau poser les yeux sur le type au costard bleu et aux lunettes cerclées d'or, il en resta bouche bée. Un moment convaincu que, pendant qu'il avait le dos tourné, l'homme s'était transformé en spectre. Il le voyait flou et avait l'impression de distinguer au travers une silhouette nettement plus réelle, celle d'une de ces légendaires figures du Far West dont cinéma et télé avaient nourri son enfance. Wyatt Earp, Doc Holliday, Butch Cassidy, enfin, l'un de ceux-là. Puis l'illusion d'optique cessa et il comprit. Le timbré avait pris les ceinturons des flics pour se les entrecroiser bas sur les hanches. Avec le costume trois pièces et la cravate, l'effet aurait pu être grotesque. Pour quelque obscur motif, il ne l'était pas. « La clé des fers est sur le comptoir. Les patrouilleurs finiront bien par se réveiller et ils te libéreront. » Il prit le portefeuille, l'ouvrit, et contre toute attente en sortit 4 billets de 20 qu'il déposa sur la surface vitrée, puis il leur empocha. « Pour les munitions, » expliqua-t-il. « Au fait, j'ai vidé ton revolver de ses balles, et une fois dehors, je vais les jeter. Je pense qu'en l'absence de portefeuille et avec une arme non chargée, ils auront quelques difficultés à t'inculper de quoi que ce soit. » Gradouble déglutit, et... ce qui ne lui était pas arrivé plus de 2 ou 3 fois dans son existence, il se retrouvait sans voix. « Maintenant, tu vas me dire où est la pharmacie la plus proche. » Et Johnny Holden comprit tout, ou du moins crut tout comprendre. Il avait affaire à un drogué, bien sûr. Pas étonnant qu'il eût l'air si bizarre. Le mec était probablement défoncé jusqu'aux yeux.
« Tournez le coin de la rue et vous en trouverez une 50 mètres plus bas sur la 49e. »«
Si je constate que tu as menti, je reviens et je te loge une balle dans le crâne. »«
C'est la vérité !»
glapit Gradouble.
« Je le jure, par Dieu le Père, je le jure par tous les saints, je le jure sur la tête de ma mère !»
Mais la porte se refermait déjà. Johnny la fixa dans un total silence, incapable de croire que le timbré était parti. Puis, aussi vite qu'il le put, il se précipita sur le battant, se plaça de dos, chercha le loquet de la serrure, le trouva, l'enclencha. Mais il ne s'estima satisfait qu'après avoir également réussi à fermer le verrou. Alors, et seulement alors, il se laissa glisser jusqu'au sol et assit là, hoquetant et gémissant. Prit Dieu à témoin et tous ses saints et tous ses anges de ce qu'il jurait d'aller à Saint-Antoine dans l'après-midi même, sitôt qu'un de ses deux poulets se serait réveillé pour lui ôter les menottes. Oui, qu'il irait à Saint-Antoine et qu'il s'y confesserait, qu'il y dirait le nombre voulu d'actes de contrition, puis il y recevrait la communion. Johnny Holden, dit Gradouble, voulait se mettre en règle avec Dieu. C'était... vraiment passé trop près cette fois. 11. Le soleil couchant se réduisit à une arche posée sur la mer occidentale, puis à un simple trait de brillance qui agressait les yeux d'Eddie. À regarder trop longtemps une telle lumière, on risquait une brûlure permanente de la rétine. C'était un de ces nombreux détails fascinants qu'on vous apprenait à l'école et qui vous permettait de décrocher un boulot gratifiant de barman à temps partiel ou de vous adonner à un passe-temps du plus haut intérêt, genre recherche à plein temps de la poudre et du fric pour se la payer. Eddie ne détourna pas les yeux pour autant. Leur état ne semblait plus devoir compter très longtemps. Il ne se donnait pas la peine de supplier la sorcière derrière lui. D'abord, ça n'aurait servi à rien. Ensuite, c'eût été dégradant. Il avait mené une existence dégradante et ne se découvrait nulle envie de tomber plus bas dans ce qu'il lui restait à vivre. Car la disparition de cette ligne aveuglante sur l'horizon n'était plus qu'une affaire de minutes. Alors, les monstruosités commenceraient à se hisser sur la grève. Il avait cessé d'espérer le miracle qui ramènerait Odetta au dernier moment, comme il avait perdu tout espoir de lui faire comprendre qu'elle resterait à jamais échouée dans ce monde s'il mourait. Un quart d'heure auparavant, il la croyait encore en train de bluffer. Il savait maintenant qu'il n'en était rien. « Ça vaudra sans doute mieux que de s'étrangler toujours plus à chaque fois, » se dit-il. Mais sans vraiment le penser, après avoir, soir après soir, assisté au retour des monstrueux crustacés. Il espérait pouvoir mourir sans hurler. Était assez sûr d'en être capable, mais comptait essayer.
« Bon arriver, Cublan !» lui cria Dette. « Bon venir te voir d'une minute à l'autre, et tu vas être le meilleur dîner qu'ils avaient eu depuis longtemps !»
Sûr, elle ne bluffait pas, et Odetta ne réapparaissait pas, et le pistolero non plus. C'était ça le plus dur. Eddie avait eu le sentiment que lui et Roland étaient devenus, sinon frères, du moins associés au cours de leur remontée vers le nord de la grève, et il aurait attendu ne fût-ce qu'un petit effort de présence de sa part. Mais Roland n'avait toujours pas l'air de s'annoncer. Peut-être n'est-ce pas l'envie de venir qui lui manque, mais la possibilité. Peut-être qu'il est mort, tué par le vigile d'une pharmacie. Merde, quelle rigolade. Le dernier pistolero du monde abattu par un flic de location ou encore écrasé par un taxi. Peut-être qu'il est mort et que la porte a disparu. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne bluffe pas. Parce qu'il n'y a plus de raison de bluffer.
« Je te dis, d'une minute à l'autre qu'ils vont arriver !»
hurla Dette. Puis, Eddie n'eut plus à se préoccuper d'avoir les yeux brûlés parce que les derniers feux du soleil couchant s'évanouirent et qu'il n'en subsista que les images dont sa rétine avait gardé le souvenir. Il fixa les vagues, et ce brillant souvenir, à son tour, s'estompa. Il attendit alors le rouleau qui déchargerait sur la grève le premier arrivage de monstruosité. 12. Eddie tenta de détourner la tête pour éviter la première créature, mais il fut trop lent. D'une pince presque négligente, le monstruosité lui détacha du visage un lambeau de chair, ouvrit son œil gauche, et en fit gicler l'humeur, révélant ainsi dans le crépuscule l'éclat blanc de l'os, cependant qu'elle poursuivait son interrogatoire, et que la vraiment méchante hurlait de rire. « Arrête !» s'ordonna Roland. « Penser ce genre de truc est plus qu'inutile. C'est dangereux, et ça n'a aucune raison d'être. Il doit rester du temps. » Il en restait de fait. Alors que Roland dévalait la 43e rue dans le corps de Jack Mort, les bras ballants au rythme de ses enjambées, les yeux rivés sur l'enseigne de la pharmacie, indifférent au regard qu'il suscitait comme au détour qu'on faisait pour l'éviter, le soleil était toujours assez haut dans son monde d'origine. Un bon quart d'heure le séparait encore de l'instant où son arc inférieur allait toucher la frontière entre ciel et mer. Et même s'il promettait d'horribles souffrances pour le jeune homme, cet instant restait à venir. Non que le pistolero fût certain de disposer d'un tel délai, il savait seulement qu'il était plus tard là-bas qu'ici, et bien qu'il pût en déduire que le soleil n'était pas encore couché, le postulat que dans les deux mondes le temps s'écoulait à la même allure pouvait se révéler extrêmement dangereux. Surtout pour Eddie, qui connaîtrait alors, songeait Roland, cette mort d'une horreur inimaginable et que son esprit s'obstinait pourtant à imaginer. Le besoin de se retourner, de voir ce qu'il en était, avait quelque chose de presque irrépressible. Pourtant, il n'osait pas. Il ne devait pas. La voix de Cort s'interposa, sévère, barrant le flot de ses pensées. « Contrôle ce que tu peux contrôler, asticot. Laisse le reste te tomber dessus comme ça lui chante. Et si tu dois succomber, que ce soit avec tes revolvers crachant le feu. » Oui, mais c'était dur, très dur parfois. S'il avait été un peu moins obnubilé par la nécessité d'en finir au plus vite avec ce qu'il avait à faire en ce monde, il aurait vu et compris pourquoi les gens rivaient sur lui des yeux ébahis, puis bondissait hors de son chemin. Mais ça n'aurait rien changé. Il marchait si vite vers les lettres bleues, qui, selon la morte encyclopédie, signalait un endroit où il pourrait trouver le caflex dont son corps avait besoin, que les pans de la veste de Jack Mort lui flottaient dans le dos, malgré le poids des munitions qui en lestaient les poches, révélant les ceintures d'armes bouclées sur ses hanches, ceintures qu'il ne portait pas à la manière nette et réglementaire des précédents propriétaires, mais entrecroisées, chaque étui bas sur la cuisse. Pour les badauds, les voyous et les putes arpentant la 49e, il offrait la même vision étrange que celle aperçue par Gradouble, celle d'un desperado. Rolland atteignit la pharmacie Katz et y entra. 13. Le pistolero avait connu dans le temps bon nombre de magiciens, d'enchanteurs et d'alchimistes. Pour la plupart, d'astucieux charlatans ou de grossiers simulateurs dont les tours de passe-passe ne pouvaient attraper que les gens plus bêtes qu'eux. Mais le monde n'ayant jamais été à court d'imbéciles, la seconde catégorie prospérait autant que la première, sinon mieux. Mais il avait aussi croisé une infime poignée d'hommes dignes de la noire réputation qui leur était faite. Capables d'invoquer les morts et les démons, de tuer avec des mots, de guérir avec d'étranges breuvages. Dans l'un d'eux, le pistolero avait pensé reconnaître un démon, créature qui se faisait passer pour humaine, et disait s'appeler Flag. Brève avait été leur rencontre, et elle s'était située sur la fin, alors que déjà le chaos puis l'ultime écroulement cernaient son pays. Sur les talons de Flag étaient survenus deux autres personnages, des jeunes gens respirant le désespoir, mais n'en dégageant pas moins une aura sinistre, et qui se nommaient Dennis et Thomas. Ces trois-là n'avaient traversé qu'une part infime de ce qui, dans l'existence de Rolland, devait rester comme un temps de trouble et de confusion. Mais ils n'oublieraient jamais comment Flag avait changé en chien hurlant un malheureux qui avait eu l'impudence de l'irriter. Oui, cette image s'était gravée dans sa mémoire. Puis, il y avait eu l'homme en noir, et il y avait eu Martin. Martin qui avait séduit sa mère alors que son père était au loin, qui avait tenté d'être l'artisan de sa mort et n'avait réussi qu'à hâter son entrée dans l'âge adulte. Martin qu'il allait de nouveau croiser sur sa route avant d'atteindre la tour, à moins qu'il ne dût l'y retrouver. Autant dire que son expérience de la magie et des magiciens avait semé en lui l'attente de quelque chose d'assez différent de la pharmacie Katz telle qu'elle devait lui apparaître. Il s'était imaginé un lieu de pénombre et de fumée, douce amère, troué çà et là par la clarté des chandelles, tout plein de bocaux et de fioles au contenu mystérieux, poudres, potions et filtres, la plupart sous une épaisse couche de poussière, voire enveloppés dans des toiles d'araignée. Il s'était attendu à une silhouette encapuchonnée tapie au fond de cet antre, à un personnage dont il lui fallut éventuellement se méfier. Or, les gens qu'il voyait évoluer derrière la transparence de ces murs de verre ne semblaient pas se comporter différemment que dans n'importe quel magasin. Et il crut qu'il s'agissait d'une illusion. En fait, ils étaient bien réels. Pendant un moment, donc, le pistolero ne fit que se tenir dans l'embrasure de la porte, surpris d'abord, puis franchement ironique. Il était là dans un monde qui, presque à chaque pas, le frappait d'étonnement. Dans un monde où les diligences empruntaient la voie des airs, où le papier ne semblait pas avoir plus de valeur que le sable. Et la toute dernière merveille qu'il découvrait était que dans ce monde, les gens avaient tout simplement cessé d'être sensibles au merveilleux. Au sein de tels miracles, ils ne voyaient que des visages mornes et des corps pesants. Il y avait là des milliers de fioles contenant des potions et des filtres que la morte cyclopédie considérait en général comme du pipeau. Ici, c'était une panacée censée restaurer votre crâne chauve dans sa pilosité d'origine, mais qui le laissait désespérément lisse. Là, une crème qui, promettant de vous gommer ses vilaines taches sur les bras et sur les mains, mentait honteusement. Et puis là, des remèdes pour ce qui n'en requérait d'aucune sorte, bloquant ou relâchant vos intestins, vous donnant des dents blanches ou des cheveux noirs, ou encore meilleure haleine, comme si les mêmes résultats ne pouvaient être obtenus en mâchant de l'écorce d'aune. Nulle magie en ces lieux, rien que du trivial, bien qu'il s'y trouvât de l'astine et quelques autres médicaments dont le nom semblait être un gage d'efficacité. Roland, dans l'ensemble, en était effaré. Fallait-il s'étonner que la magie ait déserté ces lieux qui, promettant l'alchimie, s'occupaient avant tout de parfums? Mais un nouveau recours à la morte cyclopédie lui apprit que la vérité de cet endroit n'était pas tout entière dans ce qu'il en voyait. Les potions réellement efficaces y étaient tenues à l'abri des regards et donc des convoitises. On ne pouvait les obtenir que sur autorisation d'un sorcier, lesquels en ce monde se nommaient « docteurs » et consignaient leurs formules magiques sur des feuilles de papier portant le nom « d'Ordo », terme l'un comme l'autre inconnu du pistolero. Il aurait pu s'informer plus avant, mais c'était sans importance. Il en savait assez pour ce qu'il avait à faire. Et un bref coup d'œil dans la morte cyclopédie le renseigna sur l'endroit précis du magasin où il pouvait trouver ce qu'il cherchait. D'un pas déterminé, il gagna donc le comptoir surmonté d'un écriteau où était écrit « Exécution des ordonnances ». 14. Le Katz, qui en 1927 avait ouvert sur la 49e rue le drugstore Katz, pharmacie et débit de limonade, articles divers pour hommes et dames, avait depuis longtemps rejoint sa tombe, et son fils unique semblait bien parti pour rejoindre la sienne. N'ayant pourtant que 46 ans, il en paraissait 20 de plus. Passablement dégarni, le teint jaune et d'une maigreur effarante, il savait que bon nombre de gens lui trouvaient une mine de déterré, savait aussi qu'aucun ne comprenait pourquoi. Madame Rathbun, par exemple, cette conne qu'il avait au bout du fil qui lui promettait pique de se pendre s'il ne lui délivrait pas son putain de Valium, et tout de suite, à l'instant même. Qu'est-ce que tu crois, ma mère ? Que je vais te déverser un flot de pilules bleues par téléphone ? Cela dit, c'était dommage. Elle lui aurait fait au moins la grâce de la fermer, ou plutôt de ne l'ouvrir que pour gober la manne sortant du combiné. Cette pensée lui arracha un sourire spectral qui révéla ses dents jaunies. « Vous ne comprenez pas, Madame Rathbun !» l'interrompit-il après l'avoir écouté délirer une pleine minute, tandis que la trotteuse faisait un tour complet sur le cadran de sa montre. Juste une fois, il aurait aimé être capable de lui dire « Arrêtez de me gueuler dessus, connasse !» Prenez-vous-en plutôt à votre médecin traitant. C'est lui qui vous a rendu dépendante de cette saloperie. Ces fumiers de toubib prescrivaient ça comme si c'était du chewing-gum. Et quand il décidait de fermer le robinet, qui est-ce qui se retrouvait éclaboussé de merde? Lui, pardi. Que voulez-vous dire par « vous ne comprenez pas » La voix résonnait dans son oreille comme une guêpe furieuse d'être prisonnière sous un pot. Moi, je comprends que je laisse des fortunes dans votre pharmacie minable. Je comprends que j'ai toujours été une bonne cliente tout au long de ces années. Je comprends. Il faut vous adresser au... » À travers ses verres demi-lune, il jeta un nouveau coup d'œil sur la carte Rolodex de la connasse. « Docteur Bramhall, Madame Rathbun, votre ordonnance n'était pas renouvelable et je n'ai pas le droit de vous vendre du Valium maintenant qu'elle est expirée. Ce serait un délit fédéral. »
Et... ce devait en être un d'en prescrire, à moins que le médecin ne donne à son patient son numéro personnel, celui qui est sur liste rouge.
« C'était un simple oubli !»
hurla la femme dont la voix maintenant se teintait de panique. Eddie aurait immédiatement identifié cette intonation. Le cri sauvage et désespéré de l'oiseau junkie.
« Appelez, donc, et demandez de rectifier !» dit Katz. Il a mon numéro.
Oui, ils avaient tous son numéro. Et c'était là le cœur du problème. S'il avait à 46 ans l'air d'un vieillard à l'agonie, il pouvait en remercier tous ces Verschlageners de Toubib. Et tout ce que j'ai à faire pour voir fondre les derniers vestiges de bénéfices que je tire encore de ce bagne, c'est de dire à l'une de ces connasses d'aller se faire foutre.
Mais je ne peux pas l'appeler !
Hurla la voix au bout du fil dans un sursaut de stridence qui lui vrilla le tympan.
« Lui et son petit ami sont en vacances quelque part et personne ne veut me dire où !»
Katz sentit au fond de l'estomac des sécrétions acides s'activer. Il avait deux ulcères, l'un cicatrisé,
l'autre qui saignait en permanence et toutes ces hystériques en étaient la cause. Il ferma les yeux. Aussi ne put-il voir le regard ébahi que son assistant rivait sur l'homme au costume bleu et aux lunettes cerclées d'or qui s'approchait du comptoir des ordonnances. Pas plus qu'il ne vit Ralph, le vieux vigile obèse. Katz le payait une misère, mais n'en râlait pas moins sur la dépense. Son père n'avait jamais eu besoin d'un vigile. Mais son père, que Dieu le fasse pourrir dans l'éternité, avait eu la chance de vivre à une époque où New York était encore une ville et pas une immense cuvette de chiottes. S'arracher à sa coutumière somnolence et porter la main à son arme. Il entendit bien crier une femme, mais crut qu'elle venait simplement de s'apercevoir qu'il vendait du Revlon. Il avait été obligé d'en garnir ses rayons pour contrer la concurrence déloyale de ce Potts de Dolenz, un bloc plus haut dans la rue. Il n'avait donc en tête que Dolenz et cette connasse au téléphone. Alors que le pistolero s'avançait vers lui, incarnation du destin, il ne pensait qu'à l'extraordinaire spectacle que ces deux-là pourraient offrir sous le soleil brûlant du désert, sans rien d'autre sur eux qu'une couche de miel et attaché à un poteau planté sur une fourmilière. Chacun son poteau, chacun sa fourmilière. Merveilleux ! Jouissance de l'esprit qu'accompagnait cependant l'amère conscience d'avoir atteint le fond. Telle avait été la détermination du vieux Katz à voir son unique héritier marcher sur ses traces, qu'il s'était refusé à lui payer d'autres études que celles débouchant sur une licence de pharmacologie. L'infortuné fils avait donc marché sur les traces de son père, et que dans l'éternité Dieu fit pourrir ce dernier dont l'unique rejeton en était maintenant à toucher le fond d'une vie qui semblait n'avoir pourtant connu que des creux et l'avait vieilli avant l'âge. Oui, le fond, le nadir absolu. Du moins, le croyait-il alors qu'il avait encore les yeux fermés.
Si vous pouvez passer, Madame Rathbun, je pourrais vous donner une plaquette de 12 Valium 5. Ça irait. Enfin, il entend raison. Merci, mon Dieu, de lui avoir fait entendre raison.
Et elle raccrocha. Comme ça, sans un mot pour le remercier, lui. Mais dès qu'elle allait revoir ce rectum ambulant qui se prétendait médecin, elle tomberait à ses pieds, lui astiquerait avec son nez la pointe de ses Gucci, passerait ensuite à l'étage supérieur pour lui tailler une pipe, puis « Monsieur Katz !» fit son assistant d'une voix étrangement blanche. « Je crois que nous avons un problème. » Il y eut un nouveau cri, suivi par la détonation d'une arme à feu, et si violente que fut la surprise de Katz qu'il crut son cœur sur le point de battre un dernier coup monstrueux avant de s'immobiliser à jamais. Il ouvrit les yeux, les retrouva rivés dans ceux d'un inconnu, puis il les baissa et découvrit le pistolet que celui-ci avait au poing. Un regard sur la gauche lui révéla Ralph en train de se tenir la main et de fixer lui aussi sur l'homme des yeux qui semblaient lui sortir de la tête. Quant à l'arme du vigile, le 38 qu'il avait réglementairement porté tout au long de ses 18 années dans la police, et dont les balles n'avaient jamais touché d'autre cible que celle du stand de tir dans le sous-sol du commissariat du 23e district, même s'il prétendait, sans pouvoir en apporter la preuve, l'avoir dégainé par deux fois en service commandé. Elle gisait dans le coin, hors d'usage.
« Je veux du Keflex, » dit l'homme au regard bleu acier d'une voix sans expression. « J'en veux beaucoup, tout de suite. » Et pas la peine de me demander mon ordo. »
Sur le moment, Katz ne put que river des yeux ronds sur le type, la bouche molle, le cœur battant à tout rompre, et l'estomac transformé en bouilloire pleine d'acide. S'était-il imaginé être arrivé au fin fond? Avait-il vraiment cru pouvoir jamais l'atteindre?
15.
Vous faites erreur?
Finit par articuler Katz. Sa propre voix lui paraissait bizarre, ce qui en soi ne l'était guère, vu qu'il se sentait la bouche en flanelle et la langue comme de la ouate à molleton.
« Il n'y a pas de cocaïne ici, c'est une substance qui n'entre dans aucune préparation que nous soyons habilités à faire. »«
Je n'ai pas dit cocaïne, » rétorqua l'homme au costume bleu et aux lunettes cerclées d'or, « mais Keflex. »
C'est bien ce que j'avais cru entendre, faillit dire Katz à ce tordu de Momza. Puis il se ravisa, jugeant que pareille réponse risquait d'être prise pour de la provocation.
Il avait ouï dire qu'on attaquait des pharmacies pour se procurer des amphétamines ou une demi-douzaine d'autres produits actifs, au nombre desquels le précieux Valium de Madame Raven. Mais ce devait être à sa connaissance le premier vol d'antibiotiques de toute l'histoire. La voix de son père, que Dieu le fasse pourrir dans l'éternité, le vieux salaud, lui intima l'ordre d'arrêter de bâiller aux corneilles et de se décider à faire quelque chose.
« Ok, mais il voyait pas quoi faire. »
L'homme au pistolet lui vint en aide. « Dépêchez-vous de me donner ce que je demande. Je suis très pressé. »«
Quelle quantité voulez-vous ? » demanda Katz, dont les yeux quittèrent un instant les traits du voleur pour découvrir, par-delà son épaule, un spectacle qui lui parut presque impossible.
« Non, pas dans cette ville. » Pourtant, il semblait que ce fût bien réel.
De la chance ? Katz ayant de la chance ?
Voilà qui était digne de figurer dans le livre Guinness des records.
« Je n'en sais rien, » dit l'homme au pistolet. « Autant qu'on peut contenir un sac, un grand sac. »
Et sans crier gare, il pivota sur lui-même et la détonation de l'arme, une fois de plus, retentit.
Quelqu'un beugla.
Des éclats de vitres blindées volèrent sur le trottoir et jusque sur la chaussée, blessant quelques passants, mais sans gravité. À l'intérieur du drugstore, des femmes et des hommes en nombre appréciable poussèrent des cris d'orfraie. L'alarme se déclencha, joignant au vacarme son propre mugissement rauque. Les clients paniqués se précipitèrent vers la porte et, à l'issue d'une courte bousculade, l'eurent tous franchis. L'homme au pistolet fit de nouveau face au pharmacien. Son expression n'avait pas changé. Il émanait toujours de son visage cette effrayante, mais certes pas inépuisable, patience dont il ne s'était pas départi depuis le début.
« Faites ce que je dis, et vite. Je suis pressé. »
Katz ravala bruyamment sa salive.
« Oui, monsieur. »
16. Le pistolero avait vu et admiré le miroir convexe suspendu dans le coin supérieur gauche de la boutique, alors qu'il était encore à mi-chemin du comptoir derrière lequel la chimiste gardait les potions puissantes. La fabrication d'un tel miroir était au-delà des capacités techniques de n'importe quel artisan de son monde dans l'état présent de celui-ci. Bien qu'il y ait eu un temps où de tels objets, et bon nombre d'autres merveilles du monde, d'Odetta et d'Eddy, avaient sans doute été monnaie courante. Il en avait relevé des vestiges dans le tunnel sous les montagnes, et ailleurs aussi. Reliques mystérieuses et d'une haute antiquité, à l'égal des pierres aux druides qui se dressaient parfois dans les lieux fréquentés par les démons. Et il avait tout de suite compris à quoi servait ce miroir. Le mouvement du garde, en revanche, ne lui était apparu qu'avec un léger retard. Il commençait à mesurer l'effet désastreux des lentilles que portait morte sur sa vision périphérique. Mais encore assez tôt pour qu'il se tournât et le désarma d'une balle bien ajustée. Tir de pure routine à ses yeux, bien qu'il ait eu à se presser quelque peu, mais dont la victime devait garder un souvenir différent. Ralph Lennox allait jusqu'à la fin de ses jours jurer ses grands dieux que le type avait réussi là un coup impossible, hormis peut-être dans les shows westerns pour gamins attardés style Annie Oakley. Grâce au miroir, évidemment placé là pour repérer les voleurs, Rolland avait été plus rapide pour s'occuper de l'autre. Il avait vu le regard de l'alchimiste se hausser un court instant par-dessus son épaule et immédiatement son propre regard s'était levé vers la providentielle surface réfléchissante, lui révélant l'image déformée d'un homme en veste de cuir qui s'avançait derrière lui dans l'allée centrale, un long couteau à la main, et sans nul doute, des rêves de gloire plein la tête. Le pistolero fit volte-face, et le pistolet contre la hanche pressa la détente, conscient que son manque de familiarité avec l'arme risquait de lui faire rater sa cible, mais peu désireux de blesser l'un des clients qui se tenait figé derrière le prétendant au titre de héros. Mieux valait avoir à tirer, après rectification, une deuxième balle ascendante qui ferait son boulot tout en préservant la vie des badauds que de tuer, par exemple, une dame dont le seul crime aurait été de mal choisir son jour pour s'acheter du parfum. Le pistolet avait été bien entretenu. Sa visée était juste.
Il se souvint des rondeurs mollassonnes des pistoleros auxquels il avait emprunté ses armes, et il eut le sentiment que ces derniers s'en étaient mieux occupés que d'eux-mêmes. Un tel comportement lui semblait étrange, mais ce monde dans son ensemble était étrange, et Rant ne pouvait se permettre de juger. Il n'en aurait d'ailleurs pas eu le temps. La première balle fit donc mouche, tranchant le couteau de l'homme à la base de la lame, ne lui laissant que le manche en main. Les yeux de Rolland se posèrent, très calmes, sur le type en veste de cuir, et quelque chose dans ce regard dut rappeler à l'ex-prétendant au titre de héros quelque rendez-vous urgent, car il pivota sur ses talons, laissa tomber les vestiges du couteau et se joignit à l'exode général. Rolland ramena son attention sur l'alchimiste pour lui donner ses ordres, assorti d'un avertissement. « Plus de blagues, sinon le sang coulerait !» L'autre s'apprêtait à obéir quand le canon d'une arme effleura son épaule osseuse. Il se retourna aussitôt sur un « yuck » étranglé. « Pas vous !» dit le pistolero. « Restez ici et laissez votre pranti s'en occuper. »
« Mon quoi ?»«
Lui !» D'un geste impatient, Rolland montra le jeune homme.
« Que dois-je faire, monsieur Katz ?»
Quelques survivances d'acné post-pubère rutilaient sur le blanc visage du préparateur. « Lui apporter ce qu'il demande, Putz, du Keflex. » L'assistant gagna l'un des rayons qui se trouvait derrière le comptoir et y prit un flacon. « Tournez-le de manière à ce que je vois ce qui est écrit dessus, » dit le pistolero. Le jeune homme montra l'étiquette, et Rolland n'y put rien déchiffrer. Trop de lettres étaient étrangères à son alphabet. Il consulta la mortcyclopédie qui confirma « C'était bien du Keflex. » Rolland prit alors conscience d'avoir perdu son temps en voulant vérifier. Si lui savait ne pouvoir tout lire en ce monde, il n'en était pas de même de ces gens. Combien y a-t-il de cachets dans ce flacon ?
Ce ne sont pas des cachets, mais des gélules,
précisa l'assistant nettement nerveux.
Mais si vous désirez des antibiotiques sous forme de
Je m'en fiche. Combien de doses ? Le gamin affolé jeta de nouveau un œil sur le flacon et faillit le laisser tomber.
« 200 !»
Rolland se sentit à peu près comme quand il avait découvert quelle quantité de munitions pouvait être acquise en ce monde pour une somme ridicule. Le compartiment secret de l'armoire à pharmacie d'Enrico Balazar renfermait 9 échantillons de Keflex, soit 36 doses, et notable avait été l'amélioration de son état. Si 200 doses s'avéraient impuissantes à juguler définitivement l'infection, rien n'y parviendrait. « Donnez-moi ça !» dit l'homme en costume bleu. Le préparateur lui tendit le flacon. Le pistolero retroussa la manche de sa veste, révélant à son poignet la Rolex de Jack Mort. « Je n'ai pas d'argent, mais ceci devrait être une compensation correcte. Du moins, je l'espère. » Il se tourna et, de la tête, salua le vigile qui, assis par terre auprès de son tabouret renversé, continuait de le regarder avec des yeux ronds. Puis, il sortit. Pas plus compliqué que ça. 5 secondes durant, il n'y eut d'autre bruit dans le drugstore que le braiement de l'alarme, lequel était assez tonitruant pour couvrir jusqu'aux commentaires et autres bavardages qui, devant sur le trottoir, allaient bon train.
« Et maintenant, M. Katz, qu'est-ce qu'on fait ?»
osa finalement chuchoter le jeune préparateur. Le pharmacien ramassa la montre et la soupesa. De l'or. De l'or massif. Il ne pouvait y croire. Était bien obligé d'y croire. Un dingue débarqué dans son magasin, d'une balle désarmé son vigile, d'une autre le quidam qui s'approchait par derrière avec un couteau, et tout ça pour se procurer la drogue la plus improbable. Du Keflex. Pour environ 60 dollars de Keflex. Et qu'il payait en laissant une Rolex à 4 briques.
ce qu'on fait, répéta Katz. Oh, commencez par me mettre cette montre sous le comptoir. Vous ne l'avez jamais vue. Il se tourna vers Ralph. Vous non plus.
Ok, s'empressa d'acquiescer Ralph. Du moment que je touche ma part quand vous la vendrez, j'ai rien vu qui ressemble à une montre.
Il va se faire abattre comme un chien, dit Katz avec une évidente délectation.
Du Keflex ? Fit l'assistant songeur. Et il n'avait même pas l'air d'avoir la goutte au nez.